Mais à présent, une chose est sûre. Au moins dans ce dédale vide, malgré cette obscurité, ce silence singulier et ce manque de sensation, je revois tout maintenant. Mais pas avec les yeux, je le dis bien. Comment alors? Je n'en ai pas la moindre idée, mais comme j'ai appris à dire comme ça dans ce théâtre qu'on appelle monde, je vois des images qui circulent dans ma tête, l'une après l'autre. Des images tumultueuses qui s'affolent, se bousculent et se tamponnent. C'est Anguille qui parle. C'est Anguille sous roche. Et si malgré cette obscurité forcée des plateaux, on se les partageait là, nos images du moment, nos mots qui réconfortent, nos visions nocturnes, nos lectures croisées, nos nouvelles voix intimes. Ça fait 2 ans avec la compagnie qu'on plonge dans des portraits féminins, Anguille sous roche, puis Alabama Song, 2 textes d'hommes, Lisa Mir, Gilles Leroy, donnant la parole à 2 femmes, 2 femmes puissantes, Anguille et Zelda Fitzgerald. Alors, pour cette carte blanche, j'ai demandé à Deborah Lukumuena et à Lola Neymark, qui incarnent sur scène ces 2 figures, de choisir, puis de nous lire, de vous lire, quelques portraits féminins extraits de romans contemporains, mais cette fois écrits par des femmes. Elles sont nombreuses, Natacha Appana, Annie Ernaux, Virginie Despentes, Christiane Taubira, Gisèle Halimi, Nathalie Léger, Fatima Das, Sophia de Seguin, Lola Lafont, Sylvia Plath, Goliarda Sapienza. Là, nous avons, au hasard de nos lectures communes, choisi quelques romancières qui ont compté pour nous pendant les répétitions, ou pendant le temps de la tournée, ou de la tournée qui, j'espère, va reprendre. Gabriella Zalapi, Amandine D., Pauline Delabroix-Allard, Constance Debré, Nancy Houston, Virginia Woolf, Faiza Ghen, et un texte de Deborah, qu'elle a écrit comme un écho à Anguille. Toutes ces femmes nous ont peuplés, alors voilà, je me tais, je leur laisse la parole. Pierre-Marie Brewep est aux commandes sonores. Déborah, Lola et toutes ces romancières, c'est à vous. Et un peu comme un titre, Zelda Fitzgerald nous dit « Je ne suis pas une sirène ».
Moi, j'intègre mon vocabulaire
sirène, que c'est sans que je suis même
déconseillé, qui nous sert à être parfois en bibliothèque, avant qu'un
petit peu de ça faisait des années que j'avais passé de l'amour avec sa tête du péril,
je ne prévoyais jamais qu'un cumin.
Pourquoi il faudrait absolument que je sois une amie qui s'est
mis à l'air de plus
on se raconte sans ces terres des 1 million d'enfants à prendre
même plus de leur
vie, et puis écrire des livres là,
que je suis un garçon qui
tourne.
Il n'y avait rien
des organes,
quels sont les intérêts économiques
dans la communauté.
N'aurait-il pas
le vrai,
celui des films et des chansons
avec la musique
qui ralentit?
Anna fait souvent
des rêves de noyade.
Par exemple,
elle se débat
dans l'eau glacée
de la Seine
et autour
d'elle flottent
des tas de corps
sans vie,
des centaines
d'hommes,
la tête
immergée.
Chaque
fois qu'elle
en retourne un
pour l'identifier,
elle
s'aperçoit que
c'est son père
et que
son visage est
en train de
s'effacer.
Elle
essaie de le
sauver,
de le
sortir
du fleuve
avant
que le visage
ne s'efface
complètement,
mais
elle ne sait pas
très bien nager
elle-même.
Quand
elle arrive péniblement
au bord,
c'est trop tard.
Le visage
est gommé
et
ça se termine
toujours de la
même façon.
Qu'est-ce
qu'elle doit
faire
de toutes
ces histoires
qui la hantent?
La
guerre d'Algérie,
le
17
octobre 1961,
les
ratonnades,
les émeutes,
les
bavures,
les
histoires de
contrôle
d'identité
qui tournent mal,
dont on
lui parle
au boulot,
qu'est-ce
qu'elle
doit faire
avec ce
sentiment
que
l'histoire
se répète?
Anna
sait
qu'elle
est particulièrement
sensible.
On
lui répète
tout le temps
ces mots.
Sensible,
impulsive.
Elle
sait bien
que cette
chaleur
qui monte,
cette
colère
immense,
elle
est la
première à
en faire
les frais.
Elle
voudrait
apprendre
à
l'apprivoiser,
mais
cette
violence-là
ne
vient pas
de nulle
part.
Les
images
de ses
cauchemars,
elle
ne
les
invente
pas.
Ça
a
existé,
et
ça existe
encore.
Ça
lui fait
du bien
d'entendre
«
c'est
normal,
cette
violence
fait partie
de votre
histoire,
vous
portez
en
vous
la violence
et
les
humiliations
vécues
avant vous,
D'une certaine façon, vous en héritez. C'est normal que vous soyez en colère. Cette colère qui a été longtemps réprimée, tout ça, c'est très injuste. Et l'injustice, de fait, ça met profondément en colère. Mais vous ne pouvez pas porter seul tout ce poids. Vous ne pouvez pas réparer seul l'offense. Réparer l'offense. Ces mots ont résonné en Anna comme une véritable révélation. Enfin, elle a des mots. Elle a toujours le sentiment de devoir réparer l'offense subie par ses parents. Et ce que Anna ne supporte pas, c'est l'idée qu'un jour, ils seront enterrés sans avoir eu la reconnaissance qu'ils méritent. Si elle ne s'en charge pas, qui le fera ?
Moi, j'ai tranché. C'est-à-dire que, parce que j'ai grandi comme ça, j'ai été construite comme ça, dans cette exigence de choisir. Et en fait, j'ai décidé que mon territoire, que mon pays, ce serait l'écriture. Comme ça, ça règle en fait absolument tous mes problèmes. Et en tout cas, il y a des récits. Je pense que ce sont des récits qui comptent parce que ça suffit en fait d'être écarté de l'universel en permanence. Ces récits, il faut les intégrer, il faut être à l'écoute de ces récits. On a de l'autre côté un récit comme ça, global, qui est toujours le même. Et donc ces voix, il faut les intégrer au récit national.
Il faudra bien des années encore, je crois, avant qu'une femme ne puisse s'asseoir pour écrire un livre sans se trouver en face d'un fantôme à abattre, d'un rocher contre lequel se briser. Parfois en bibliothèque, je pense aux millions de livres médiocres, aux gros tas de savoirs périmés ou erronés qui ne feront plus jamais qu'accumuler de la poussière. Je pense aux millions d'épouses qui ont fait taire des millions d'enfants afin que les hommes puissent écrire ces livres-là. Chut, papa travaille. Et je me dis qu'en fin de compte, la véritable perte de temps était souvent l'écriture. N'aurait-il pas mieux valu pour tout le monde que ces hommes jouent avec leurs enfants ?
J'ai essayé d'écrire un livre, pas sur l'amour, mais un livre d'amour, ce roman d'amour, d'amour maternel, mais pas que. Et l'amour, c'est violent.
Je ne vois pas pourquoi l'amour entre une mère et un fils ne serait pas exactement comme les autres amours. Pourquoi on ne pourrait pas cesser de s'aimer ? Pourquoi on ne pourrait pas rompre ? Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'en foutre une fois pour toutes de l'amour prétendu, de toutes les formes d'amour, même de celui-là. Pourquoi il faudrait absolument qu'on s'aime, dans les familles et ailleurs ? Qu'on se le raconte sans cesse, les uns aux autres, ou à soi-même. Je me demande qui a inventé ça. De quand ça date, si c'est une mode, une névrose, un toc, du délire. Quels sont les intérêts économiques, les ressorts politiques. Je me demande ce qu'on nous cache, ce qu'on veut de nous, avec cette grande histoire de l'amour. Je regarde les autres, et je ne vois que des mensonges et je ne vois que des fous. Quand est-ce qu'on arrête avec l'amour ? Pourquoi on ne pourrait pas ? Il faudrait que je sache. Je me pose la question. Ça faisait des années que je me disais bien, c'était de l'amour prétendu, comme si on se réveille guéri, il y a beaucoup de temps de savoir périmer des conseils, pourquoi il faudrait absolument plus jamais qu'accumuler des conseils. Je le raconte sans cesse, il y a un des amours de Wasker qui ont fait taire des millions d'enfants. Oui, j'ai pensé que ce change de sens, de toute façon, ça ne marchait pas. Les organiser, les femmes n'y avaient rien d'organiser des banalités et condamnées par la communauté.
Elle ne sait pas que son odeur me distord le ventre. Elle ignore que plus rien ne m'intéresse, plus rien ni personne. Elle mange un pain au chocolat chaque matin avec un café au lait. Je me mets à manger un pain au chocolat chaque matin avec un café au lait. Elle met du mascara tous les jours, je me mets à mettre du mascara tous les jours. Elle emploie des mots vulgaires, inconnus de moi, je les intègre à mon vocabulaire. Elle colle ses seins contre les miens dès que nous sommes deux. Et elle me serre à étouffer, comme si elle voulait que nous fassions plus qu'un seul corps. Dans cette tempête, elle est capitaine de navire. Je deviens femme de marin. Elle a bientôt 35 ans, elle est gaie d'une drôlerie irrésistible. Elle est enthousiaste, exaltée, théâtrale. Elle s'émerveille de tout, s'intéresse à tout. Elle a toujours envie d'apprendre. Elle a un petit corps. Elle porte des vêtements de taille 36, parfois 34. Elle meurt de plaisir lorsqu'elle mange du vrai jambon ibérique. En règle générale, elle aime beaucoup la charcuterie, la viande. Elle est carnivore. Elle parle bien l'espagnol, elle connaît bien Madrid. Mais elle a un amour particulier pour l'Italie. Une des choses qu'elle préfère au monde, c'est le premier trio de Brahms. Elle n'a aucune patience pour rien. Elle veut tout, tout de suite. Elle n'a pas d'enfant. Elle ne sait pas si elle veut en avoir. Elle lit extrêmement lentement. Un roman peut rester des semaines sur sa table de chevet. Elle porte des lunettes pour aller au cinéma, pour conduire, parfois pour travailler sur ses partitions. Elle a deux frères, plus jeunes qu'elle. Elle a un père qui lui a transmis le goût des cérémonies et une mère qui lui a transmis le goût des fêtes. Elle aime énormément sa famille. Elle a grandi dans le 16e arrondissement, pas très loin de la Seine. Elle vote à gauche quand elle vote. Le matin, elle n'arrive pas à me laisser aller travailler. Une fois l'enfant déposé à l'école, elle monte dans le bus à mes côtés, le violon sur le dos. Elle pioche dans un sac de Kraft des poignées de cerises qu'elle dévore sans retenue. Elle s'amuse de me voir gêner quand elle s'approche trop de moi, quand sa main essaie d'attraper ma main. Elle me dit « Oh, ça va, tes élèves, on s'en fout, on les éduque, c'est plutôt bien, non ?» Elle crache sur la chaussée des noyaux de cerises qu'elle mange tout en marchant. Elle dit « Oh, ça va, tes collègues, tu crois vraiment qu'ils ont jamais vu de lesbienne ?» Elle boit beaucoup, elle fume clope sur clope. Elle a une manière de me regarder dans les yeux quand elle fume qui me foudroie le corps de manière extrêmement douloureuse. J'ai mal tant j'ai envie d'elle. Quand nous sommes ensemble, la vie va trop vite, à toute berzingue. Elle dit rien à foutre. Je vais leur dire, je suis tellement heureuse avec toi que j'ai envie de le crier sur tous les toits du monde entier. Elle dit, ce sont mes parents. S'ils m'aiment, alors ils seront heureux que je sois heureuse. C'est ça des parents, non ? Elle m'appelle quelques heures plus tard. Elle n'arrive pas à articuler tant elle pleure au téléphone. Elle supplie, est-ce que je peux venir chez toi ? Elle me tombe dans les bras quand j'ouvre la porte de mon appartement. Elle dit, ma chérie, c'est horrible, c'était le pire jour de ma vie. Ils ont été odieux, mon père ne veut plus me voir. Ça raconte ça, qu'on ne peut pas aimer, boire et chanter en paix. Que pour vivre heureuse, il faut vivre cachée. Ça raconte Sarah. Parfois, elle devient folle, folle de rage, puis folle de chagrin. Elle se met à hurler, elle se jette sur moi, me griffe le visage avec, sur le sien, a un air monstrueux. Elle est pire qu'une sorcière de conte. Elle m'en veut de tout, de lui voler son temps, de lui voler sa jeunesse, de lui voler l'amour de sa vie, de sa famille, de lui voler l'idée qu'elle s'est faite depuis petite de la manière dont elle doit mener sa vie. Elle ne le dit pas, mais je l'entends, hein. Ça teinte à mes oreilles. Voleuse, voleuse, voleuse! Elle me reproche des conneries, des tas de choses, mais au fond, je sens. Elle me reproche d'exister, d'avoir croisé son chemin. Elle me reproche d'être une femme. Elle m'en veut de pas pouvoir, du coup, m'aimer en paix. Elle entre dans des colères flamboyantes, inoubliables. Son petit corps se transforme. Elle a l'apparence d'une bête furieuse et rugit, entièrement rouge. Le remède contre ses folies est toujours le même. J'attends un moment d'accalmie, je la force à se déshabiller. Une fois nue, j'essaie de me concentrer sur ce que j'ai à faire. Elle vocifère toujours quand je la pousse sous la douche, les cheveux qui pendent devant les yeux. Elle se laisse faire, se calme un peu lorsque l'eau commence à couler sur son corps. J'ai la mâchoire qui me fait mal à force d'avoir les dents serrées. Dans ma tête, je lui parle. Je lui dis « Mais tu vas te calmer, oui, tu vas arrêter !» Dans la douche, je lui parle. Je lui dis, allez, c'est fini, mon amour, c'est fini, ça va, tu vois, ça va aller. Je la sors de là, je l'enroule dans une serviette et je l'assois sur le bord de la baignoire. Elle pleurniche encore un peu, mais l'ouragan est passé. Elle se laisse enfouir sous la couette, le visage bouffi d'avoir trop pleuré. Je ferme sans bruit la porte de l'appartement et dans la rue, je vais hurler de toutes mes forces, les poings serrés, comme un loup. Un soir de pleine lune, je hurle jusqu'à ce que ma gorge brûle. Je hurle l'amour en fuite.
Et puis, ça n'a plus marché du tout. J'ai arrêté d'aller chez Laurent. J'ai arrêté d'aller chez les flics. Maintenant, j'envoie des textos à Paul. J'ai son numéro. Parfois, il me répond. Parfois, il ne me répond pas. J'ai progressé en crawl. Je travaille le souffle, je fais des boucles à 3, 5, 7 temps, je bosse les ondulations pour les couler, je sors à 12 mètres, j'ai gagné en puissance, je suis même passée au papillon, ça ouvre les poumons, on a l'impression de voler. C'est de nouveau l'été. Et ça me réussit toujours, l'été. C'est à vélo, hier soir, que j'ai compris. Je rentrais de Belleville, je traversais Paris. J'ai compris que c'était fini le chagrin. Pas la tristesse de temps en temps, bien sûr, mais le chagrin qui bouffe tout, ouais. J'ai pensé que j'avais fait le deuil de mon fils. Je me suis dit, c'est ça, j'ai fait le deuil. Je me sentais bien. Ça faisait des années que je m'étais pas sentie aussi bien, c'était venu d'un coup. Comme quand on se réveille guéri après une grippe, en y réfléchissant, ça faisait des mois que je ne rêvais plus de lui. J'ai failli appeler l'avocat pour lui dire que je ne voulais plus rien, même plus de week-end ni de vacances. Puis j'ai pensé que ce n'était même pas la peine, puisque de toute façon ça ne marchait pas. Il n'y avait rien à dire, rien à faire. On se voit quasiment plus, on déjeune vaguement ensemble, de loin en loin. On ne sait plus quoi se dire. On devient des étrangers, ça s'étiole forcément. Déjà, les souvenirs de ma vie avec lui s'effacent. Ou plutôt, ils sont là, quelque part. Mais ils ne me sautent plus à la gorge. Je peux regarder les autres enfants sans penser à lui. Je les trouve mignons. Ce n'est plus triste. Ce n'est plus le coup de poignard. Bientôt, il sera suffisamment grand pour décider de ne plus me voir du tout. Je le laisserai faire. Ou peut-être qu'il en aura marre de son père et qu'il voudra revenir chez moi. On ne sait jamais avec l'adolescence. Et peut-être que chez moi, ce sera chez nous, puisqu'on parle d'avoir un appart, S et moi. S, c'est la nouvelle, ça fait 4 mois qu'on se voit. C'est depuis que j'ai décidé de ne plus trop penser à Paul que ça bouge comme ça avec elle. Je trouve ça bien, quelqu'un qui m'aime. J'ai réfléchi. Il n'y a pas 36 solutions. Love me tender, love me true. Never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me do. Ai-je lu cette phrase? Depuis, au lever, je regarde autrement ce qui m'entoure. Le monde prend de l'ampleur, du volume, une odeur. Ce petit miracle s'évanouit très vite pour être remplacé par une implacable journée ligne. Mon mariage n'est pas celui que j'espérais. Depuis la naissance d'Arturo il y a 8 ans, les attentions de Franco se sont effilochées. Il se regarde dans la glace le matin, ajuste sa mèche, sa cravate et part travailler en me saluant une fois sur deux. J'ai été d'une naïveté grotesque en l'épousant. Je suis simplement supposée obéir, entretenir la maison et superviser l'éducation de notre fils, rien de plus. Je suis sa subordonnée, son obligée. Lorsque j'ai évoqué mon envie de travailler, Franco a répondu « Mais que diraient les gens ?» Tu as tout ce qu'il te faut, les femmes de ton rang s'occupent d'organiser des mondanités et tu as beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Il ne comprend rien. 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 J'ai 29 ans. Mes désirs tombent, s'enfoncent dans l'insonore. Impossible d'envisager une vie de perfect housewife pour le restant de mes jours. J'aimerais abandonner ce corset, cette posture de femme de, mère de. Je ne veux plus faire semblant.
Le livre s'ouvre sur une femme qui s'interroge sur ses choix de vie, et qui se demande à quel point ses choix lui appartiennent. Est-ce que c'est elle qui a voulu ça? Est-ce qu'elle s'est contentée d'obéir? Est-ce qu'elle s'est assez battue? Enfin voilà, elle s'arrête et elle se pose la question. Elle s'interroge effectivement sur le couple libre, sur son désir, sur retrouver un peu le frisson des premières fois. C'est aussi un livre qui parle de quotidienneté, de comment on laisse de la place au désir dans notre quotidien, dans tout ce qu'il y a à faire. Et en même temps, c'est pas que ce désir est éteint vis-à-vis de son couple, c'est plutôt que elle-même veut prendre le temps de se retrouver, en fait. Et pour se retrouver, pour retrouver ce désir, elle réinterroge l'enfant, l'adolescente et la jeune femme qu'elle a été.
Avant qu'une femme, parfois en bibliothèque, je pense qu'on oublie de s'en souvenir une fois pour toutes de l'amour, pas de savoir quel est l'amour prétendu que ta mère n'a plus jamais.
Ça faisait des années d'interminables galeries
je pense, de l'entrée comme au million.
Arrivée au collège, elle est frappée d'invisibilité. Oubliée, l'outsider de la galoche, ses jupes à volant ne font plus sensation. Tous les élèves de 6e sont amoureux du même garçon et de la même fille, Marina et Julien. Et Marina et Julien sortent ensemble. Gorge serrée, elle regarde Marina traverser la cour, ses cheveux et ses seins qui flottent au vent. Elles ont le même âge, mais un monde les sépare. Se réveiller le matin, aller à la cantine, suivre les cours de SVT, participer à un tournoi de ping-pong. Quand on est Marina, ça doit tout changer. La vie a forcément plus de goût quand son prénom est gravé sur les pupitres de la classe. Marina embrasse des garçons. Juste avant, celle-ci dépose une noix de dentifrice sur son index et frotte ses incisives. Elle se consume de jalousie. Elle aussi, elle aimerait beaucoup qu'on pose sur ses épaules un bras de propriétaire, mais personne ne semble vouloir la posséder. Elle barbote dans un espace indistinct, plus gosse, pas femme. Coincée, là, entre deux panneaux indicatifs, elle attend son corps qui lambine dans l'enfance. J'ai 12 ans et je me suis fait un tas de promesses. Elle voit des bosses poindre sur les autres poitrines. Elle est, selon l'expression consacrée, une planche à pain. Elle supplie sa mère de lui acheter de minuscules soutiens-gorge. Il y a urgence à désigner. Il lui faut accéder à quelque chose qui tracera des contours, affermira les traits, mettra de l'ordre. Elle voudrait brandir sa féminité. Elle attend. Pulpe et poils. Sa force, ses muscles, son intelligence, ça ne compte pas. Ce n'est pas ça qui la fera femme. Dans son quartier, elle se rattrape, roule d'interminables galoches dans la pénombre de l'entrée de son immeuble. Une amie lui conseille de s'exercer sur le doupli interne du coude. Et elle s'y applique pendant son temps libre. Il y a les garçons qui tournent la langue dans le même sens, ceux qui changent de sens, les organisés qui mâchent un chewing-gum avant, ceux qui bavent, condamnés par la communauté. Là, il s'agit d'un entraînement. Elle fait avec les moyens du bord et les garçons de son quartier. Plus tard, nul doute qu'elle trouvera chaussure à son pied. Couvercle à son pot, bref, l'âme sœur. Ce sera le coup de foudre. L'amour, le vrai, celui des films et des chansons avec la musique qui ralentit quand leurs regards se croisent. Quelqu'un l'attend forcément quelque part. Elle ne caresse plus ses amis. Elle apprend à désirer au bon endroit. Elle traite à tout bout de champ son frère de pédé, insulte classique, comme salope ou enculé. Un jour, sa tante l'interrompt. Sais-tu seulement ce que cette insulte signifie? Sais-tu que moi aussi je suis pédé? Après ça, elle l'observe. Dans la rue, jamais sa tante ne donne la main à son amoureuse, jamais elle ne l'embrasse dans le cou. Leur amour ne figure nulle part sur les calendriers, les livres et les bancs publics. Décidément, gros déficit de princesse dans cette famille. Dans son quartier, une fille plus âgée qu'elle fanfaronne. Elle évoque une pratique inconnue et terriblement exotique. Elle vient de le faire avec son petit copain. La fille se fait un plaisir de lui expliquer. Elle prend un air entendu et retient sa respiration. Ça alors, une branlette espagnole. Elle est bouleversée. Elle aussi, elle fera ça quand elle sera grande. Elle aussi, elle aura cette lueur dans les
J'ai découvert toute seule que tes éclats de rire étaient vite revenus, que ta joie ne t'avait finalement jamais quittée, que mes larmes n'étaient pas partagées, que ton corps n'a même pas eu de mal à désirer quelqu'un d'autre, et ce seulement 6 jours après, alors que j'inondais moi mes oreillers de larmes. Pardonne-moi d'avoir été une si mauvaise amante au point de vouloir vite rectifier le tir avec une autre femme. J'ai donc compris que j'étais la seule à souffrir cette décision et j'ai tout simplement arrêté de souffrir. Le processus était long, il y a forcément eu quelques rechutes, certaines nuits étaient plus dures que d'autres, j'avais le souvenir de ta main dans la mienne qui venait me hanter parfois, je voyais des coupes s'aimer et je sentais mon immense solitude poindre dans ma poitrine et lacérer mon cœur, je me suis même pensé indigne d'amour. Mais tout ceci n'était que les derniers relents qui annonçaient la fin de mon amour pour toi. Les dernières secousses à quelques mètres du sol avant un atterrissage ferme et un roulage tranquille après une descente venteuse. À l'heure où je t'écris, je roule tranquille. À l'heure où je t'écris, je suis plus amoureuse de toi. Je ressens plus rien pour toi. Ce vide dans ton cœur que tu disais ressentir sur ce trottoir, je le ressens à présent quand il m'arrive de songer à toi. Ni amour, ni haine, ni ressentiment, même pas de la violence. Mais plus aucun désir de te parler ou de t'avoir dans ma vie. J'aurai bien sûr à vie de la tendresse et du respect pour notre histoire qui a été ma première et dans laquelle j'y ai mis tellement, mais tellement de sincérité. Une histoire qui m'a enseigné de grandes leçons, bien que douloureuses, mais nécessaires à la vie et dont je pense tu as été l'instrument de transmission. Je t'ai aimé tout mon cœur, avec toutes les fibres de mon corps, toute mon âme et ma personne. Dans tes bras, je me suis sentie belle, grande, aimée, séduisante. J'ai souri à la vie et elle me l'a rendue. Mon corps a frémi sous tes mains, ma bouche a adoré répondre à la tienne, faire perler tes boucles entre mes doigts. Mes yeux ont adoré rencontrer les tiens au réveil. Regarder le gonflement de ta poitrine à chaque taf de cigarette. Je pense que je méritais pas toute cette douleur. Je méritais pas de souffrir comme ça. Je méritais, pour ma première histoire, de croiser le chemin d'une personne qui se refuse pas à l'amour, qui me fait pas espérer pour rien et surtout qui ne m'abandonne pas, moi, qui l'attendais tellement l'amour. Je répète, je méritais pas de souffrir ainsi. Mais diantre, qu'est-ce que j'ai mûri depuis ? Je crois pas que tu m'aies aimé. Je pense que tu l'as voulu et que tu as tenté toutes tes forces de me rendre un peu d'amour. Mais tu n'as jamais été amoureux de moi. Et c'est pas de ta faute, tu sais. C'est la vie, c'est comme ça. Je t'en veux plus. Tu en aimeras une autre. À nos âges, est-ce qu'on sait réellement ce que c'est d'aimer ? L'amour, c'est plus grand que nous, c'est plus grand que tout. C'est beau, c'est grandiose, c'est près du ciel, ça frôle la peau, noue l'estomac, dilate les pupilles. Et parfois, ça brûle, ça saigne, c'est sourd. Ça passe. Oublie-moi. Définitivement. Laisse-moi partir. Laisse mes plaies se refermer. Mon désir de rester ami avec toi est caduque. C'était un désir désespéré, irraisonné, malsain, autant pour toi que pour moi, tu verras. Prends ce message comme un prolongement de ta propre décision que t'as prise sans regret. Serment sur l'honneur qu'il n'y a dans mes mots aucune amertume, aucun venin. Juste une trop grande gourmandise de la vie pour marcher à reculons. Puisses-tu trouver celle qui t'accompagnera dans ce périple et saura combler ce vide et déverrouiller les portes empiriques de ton cœur. Puisses-tu aimer la vie, ses petits tout et ses grands riens. Puisses-tu trouver le salut et les calmes des pensées dont tu me disais manquer sur ce trottoir parisien. Puisses-tu vivre comme tu le souhaites, écrire, créer tout ce que ton cœur te dictera. Puisses-tu panser tes plaies, guérir de tes maux, faire taire tes démons. Puisses-tu trouver ta lumière, te sentir vivant.